dans une position théologique. S'il n'y avait pas eu le péché originel, aurait-il pu y avoir des monstres ou des malformations au niveau du vivant? Car la potentialité de la matière existait même avant la faute. Oui, tout à fait juste, la potentialité de la matière existait avant la faute. Mais pour l'homme, il y avait l'injustice originelle qui aurait été transmise. Et donc, il n'y aurait pas eu de monstre au niveau humain. Sûrement pas. Les monstres sont une conséquence du péché originel. Parce que la justice, les monstres, au point de vue de la génération humaine, et du reste, surtout là qu'il y en a, plus que pour l'animal, beaucoup plus. Les animaux, il y en a quand l'homme se met à y toucher. Les animaux sauvages, il y en a beaucoup moins. Alors là, il y a un problème très délicat. Je ne l'ai pas traité du tout à la session. Mais qui est un problème vrai qui se pose. Donc, au point de vue de l'homme, c'est net. Il y a une protection de Dieu dans la justice originelle qui fait qu'il n'y aurait pas eu monstre. Parce que la matière pour l'homme n'aurait pas pu défaillir étant donné qu'il y a une création immédiate de l'âme et que les dispositions vis-à-vis de cette création sans la faute, sans péché aurait toujours été ce qu'elle devait être. La vertu active au point de vue humain, au point de vue de la procréation, aurait été ce qu'elle devait être. Alors la question se pose par rapport aux autres animaux et par rapport au monde physique. Je crois qu'au monde physique, l'équilibre du monde physique est très difficile à préciser. De sorte qu'on ne peut pas dire grand-chose là-dessus. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas dire grand-chose. Pour les animaux, dès qu'il y a la vie, il y a quelque chose de beaucoup plus déterminé, puisque l'âme de l'animal reste toujours comme une victoire sur la matière. La vie est une victoire sur la matière. La matière tend toujours vers la désagrégation et la vie pas du tout. La vie a un aspect de virtualité active beaucoup plus grand, ce qu'on appelle l'âme. Finalement, l'âme des animaux n'est pas créée directement par Dieu. Normalement de la matière. Ça, je crois que c'est le monde des vivants. Mais à cause du péché originel, l'homme peut de fait intervenir de façon maladroite. La technique, ce qu'on voit aujourd'hui, qui peut faire des choses monstrueuses. Et puis, il y a toujours un aspect qui est très difficile à préciser. Quel aurait été le pouvoir du démon sur l'univers sans la faute? Je suis persuadé que l'univers physique été remis à l'homme, puisque Dieu a dit dominez-le, et que le symbolisme de l'Éden, parce que c'est un symbolisme, représentait que notre petite planète était remise à l'homme pour que l'homme puisse la cultiver. Du fait même qu'il y a la faute, chassé du paradis terrestre, donc chassé de cette harmonie plénière, par le péché, l'homme a perdu sa dignité royale sur l'univers. Et le démon peut agir d'une façon plus immédiate. C'est comme si les clés de notre monde avaient été remises au démon. Je crois, c'est très difficile à préciser, mais je crois que ce serait important à préciser. Il y a sûrement un pouvoir beaucoup plus profond du démon sur notre univers à partir de la faute. Et de l'univers physique. Jusqu'où va ce pouvoir, je n'en sais rien. Mais regardez le livre de Job. On verra le livre de Job. Je ne vois pas aujourd'hui, mais on le verra, parce que c'est un très grand livre. Et le livre de Job explique des quantités de choses, sous une forme symbolique, il explique des choses. Mais la destruction, on voit très bien tous les malheurs qui arrivent successivement, ben ça c'est le démon qui intervient. Alors comme le démon intervient, là d'une façon beaucoup plus immédiate, à cause des conséquences du péché originel. Le démon peut susciter des orages, peut susciter des intempéries, des cyclones. C'est bien évident. Alors que je crois que l'homme, ayant un pouvoir sur l'univers, un dominium sur l'univers beaucoup plus grand, le démon n'aurait pas pu intervenir. Comme une espèce de remise entre les mains de l'homme, au pouvoir de l'homme, de cet univers, notre petite planète. L'homme a perdu ça. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut chercher. Étant donné que la matière est en potentialité à toutes les transformations possibles, expliquer le désordre, pour ne pas parler de souffrance, dans le monde animal ou végétal. Oui, la souffrance est très difficile de savoir, parce que pour qu'il y ait souffrance, il faut qu'il y ait conscience. Alors il y a une petite conscience instinctive, je crois, chez les animaux. C'est difficile, je ne vais pas cohabiter, alors c'est difficile de savoir exactement ce que le chien pense quand il pleure. Quand vous égorgez un porc, qu'est-ce qu'il pense? Vous ne mettez pas à sa place, surtout pas. C'est très très difficile ça. Alors dire brutalement l'animal ne souffre pas, c'est un peu vite. Dire que l'animal souffre, c'est aussi trop vite dit. Quelque chose de curieux. On connaît très mal l'animal. Parce que la vie demande d'être connue de l'intérieur. Alors on se connaît à peu près. Comme nous avons la même espèce, nous arrivons à nous connaître à peu près. Mais nous savons que nous nous trompons grossièrement les uns par rapport aux autres. Grossièrement, parce qu'il y a des bascules de la place publique de Neulise, puis celle de la pharmacie, et ça est mis dans la même vie commune. Dans le voyage et des œuvres, disons, dans un gros permis, on lui transporterait la grosse bascule de Venise, la petite bascule de la pharmacie, toutes les choses intermédiaires, puis il y a des chocs là-dessous. Alors les uns se mettent à crier très fort parce que le coup de frein est un peu trop rapide. Les autres n'ont rien senti. C'est extrêmement complexe, vous voyez. Et au fond, on a déjà beaucoup de peine à comprendre les individus humains. Et quand il s'agit de l'animal, alors là, c'est encore beaucoup plus difficile. Alors, analogiquement, on projette, on fait des projections énormes. Et on projette notre sensibilité, notre capacité de souffrance sur les animaux les plus proches. Et puis, ils souffrent, c'est métaphorique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose. Il y a quelque chose, mais c'est métaphorique. Certaines analogies. Mais je dis métaphorique parce que pour nous, la souffrance présuppose la conscience. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on essaie de faire qu'il n'y ait plus de souffrance avec la conscience. Ça se fait pour les cancers, entre autres. Parce que brutalement, il y a des remèdes qui suppriment la conscience. Et c'est très simple. Vous ne souffrez plus, mais vous n'avez plus conscience. Alors vous tenez une plante verte. C'est pas drôle de ramener l'individu. Tandis qu'on essaie de façon très subtile. Ça se fait en Angleterre. Thérèse Vanier est très calée là-dedans, la sœur de Jean Vanier. Je ne sais pas du tout ce que ça représente. Ça m'intéresserait beaucoup de voir ça. On la supprime, on garde la conscience et on supprime la douleur. Paraît-il qu'on peut vivre jusqu'à la fin un cancer sans connaître des souffrances terribles. Et on a conscience. Ça fait partie du progrès de la technique. Qu'est-ce que ça représente au point de vue de la sainteté? Très difficile. C'est pas plus en vue de la sainteté. C'est plus dans une perspective de diminuer la souffrance, qui est bien diminuer la souffrance. De toujours essayer de diminuer la souffrance de quelqu'un qui souffre beaucoup. Et qui ne peut pas arriver à tout porter. Alors voyez. Comment expliquer le désordre pour ne pas parler de souffrance dans le monde animal ou végétal? Peut-on le relier au péché originel et à ses conséquences possibles sur le monde animal? Je suis persuadé. Ou par l'homme, ou par les démons. Voyez, cette question d'influence des démons au Moyen-Âge, dans un âge de chrétienté, dans l'Évangile, c'est évident que l'influence des démons est marquée de façon très forte. Puis on est tombé dans un rationalisme où la science a relégué très loin la place des démons. Et nous retombons maintenant dans une autre perspective où quelquefois on accorde trop de place aux démons. C'est très difficile d'avoir un regard juste sur la place exacte du démon dans notre univers et dans notre psychisme. Dans notre psychisme, comme c'est difficile de savoir exactement la place du démon. Qu'est-ce que ça représente exactement? Dans l'angoisse, actes violents de quelqu'un qui n'en peut plus. Est-ce que c'est le démon qui agit? Ou est-ce que c'est tout simplement quelqu'un qui n'en peut plus? Alors qui fait des actes excessifs. Alors c'est très facile de dire c'est le démon. Parce qu'à ce moment-là, vous vous déchargez complètement de toute votre responsabilité. Mais est-ce que certains possession du démon qui implique un contrat et les possessions du démon qui n'impliquent pas de contrat. C'est sûr qu'il y a des possessions du démon qui n'impliquent aucun péché. La petite Benoîte, que le père de Haut aimait beaucoup, la petite Benoîte du Loos, qui était tertiaire dominicaine. Il est évident que le démon avait un pouvoir extraordinaire sur elle, puisqu'il la transportait de temps en temps dans un champ, puis elle restait là vieux, dans l'impossibilité de bouger. Alors évidemment, auprès du psychanalytique, on aurait dit, oui, c'est sûr, elle a des... Je crois que c'était le démon. Le démon peut, c'est un pouvoir que Dieu peut donner, vous mettre dans un état tel que ce que vous faites, c'est plus de vous. Vous avez des actes d'homme et puis des actes humains. Pas le péché, mais des actes de violence, des actes invraisemblables. C'est possible. Pour pas dire que c'est impossible. C'est possible. Et puis il y a des possessions alors véritables du démon. Et les possessions véritables du démon, c'est quand le démon alors se sert de l'homme, la bête de la terre et la bête de la mer. Et vous voyez, peut-être que dans la tête de la bête de la mer et la bête de la terre, on exprime ces deux choses-là. C'est très possible. Ces deux espèces de possessions. La possession qui implique une alliance et une possession qui n'implique pas d'alliance. On voudrait très bien en être libéré. Et on est comme sous la suggestion du démon. Et comme quelqu'un sous l'effet d'une hypnose. Quelqu'un qui vous téléguide. Un permettre très puissant téléguiderait comme ça l'hypnotisme. Ça existe, ça peut exister, pas ici, mais ça peut exister. Ça peut exister, c'est pas impossible. Le démon a un pouvoir comme ça, qui est très très grand. Et le démon peut donner, quelquefois, ce pouvoir-là. Alors là, ça exigerait une alliance, un pacte avec le démon. Et le démon, sans pacte, peut arriver à vous rendre... Alors c'est très difficile, vous voyez, de préciser à ce moment-là qu'est-ce qui vient du psychisme, qu'est-ce qui vient du démon. Je crois qu'on est dans l'incapacité soi-même de pouvoir le faire. Théologiquement, c'est très très difficile. Je crois que théologiquement, la seule chose qu'on pourrait faire, parce que vous voyez, vous êtes au niveau du conditionnement, vous n'êtes plus au niveau des finalités. Le démon agit sur le conditionnement de façon artistique, c'est-à-dire de l'extérieur. Il peut faire que vous ne voyez plus. Je n'assiste pas plus. Je voudrais que vous continuiez un petit peu ce qu'on avait dit ce matin. Je crois que c'est peut-être plus important de voir ensemble un autre aspect qui est tellement important et qui est propre au démalo, la recherche de la cause du mal. J'ai dû aller assez rapidement parce que c'est une question très difficile, mais c'est intéressant, c'est dans le démalo. Est-ce que le bien est-il cause du mal? On comprend très bien. Très grave question, une question très importante de savoir. Et vous voyez, c'est la question que je crois que les exorcistes ne se posent pas assez. Ils ne sont pas assez théologiens la plupart du temps, et pas assez philosophes. Alors c'est une question grave, importante. l'artère droit, dans le démalon, parce que ce n'est pas dans la sorte. Où saint Thomas se pose la question. Et saint Thomas, à partir du texte de saint Augustin, dit que le mal ne peut naître qu'à partir du bien. C'est toute la question de savoir. Dieu ne peut pas causer le mal. Ça, c'est sûr. Causalité divine est innocente du mal. C'est pour ça que saint Thomas dit que Dieu n'a pas d'idée, idéant du mal. Et il faut faire attention. Quand saint Thomas dit que Dieu n'a pas d'idéant du mal, c'est-à-dire que Dieu n'est pas cause et vision du mal. Ça ne veut pas dire que Dieu ignore le mal. Dieu n'ignore pas le mal. Dieu connaît le mal. C'est une connaissance qui n'est pas la connaissance du Créateur. C'est-à-dire une connaissance active. La connaissance efficiente. Il connaît le mal. Puisqu'il connaît tout ce qui est en nous. Or, nous ne connaissons le mal. Nous avons une expérience du mal. Dieu connaît les privations, c'est bien évident. Donc il connaît que le mal existe. Dire que Dieu ne connaît pas l'existence du mal, mais ce sera faux. Alors comment voulez-vous qu'il ait la miséricorde? Ce serait supprimer la miséricorde. C'est ça que ça, il faut, faire grande attention. Il faut bien distinguer l'idéant et puis la connaissance. C'est l'aspect artistique de Dieu. Quand saint Thomas dit que Dieu n'a pas l'idée du mal, ça ne veut pas dire du tout que Dieu ne connaît pas le mal. J'ai vu la misère de mon peuple. C'est cette grande vision des ordres. J'ai vu la misère de mon peuple. Donc il l'a vu. Il le voit. Tout ce qu'il y a en nous, de misère. Porte des carences, des rites, des privations Alors, saint Thomas nous dit ceci. Donc, indépendamment de l'édition sur Dieu, je réponds qu'il faut dire que la cause du mal est le bien, dans la mesure où le mal peut avoir une cause. Là, c'est très intéressant, dans la mesure où le mal peut avoir une cause. Il faut savoir en effet que le mal ne peut pas avoir de cause propre. Alors, c'est ici où saint Thomas fait une petite distinction extrêmement intéressante, qui est une distinction qui vient d'Aristote. La cause per se et la cause per accidens. Saint Thomas nous montre qu'il n'y a pas de cause per se du mal. Le mal n'a pas de cause per se. Le mal n'énerve jamais. façon essentielle. Par définition, le mal est quelque chose qui vient s'ajouter extrinsèquement. On est toujours violenté par le mal. Tout ça, c'est insupportable. C'était naturel. Ben, ce serait supportable. Mais quand vous naissez avec un bras en moins, c'est insupportable. C'est code naturel au point de vue du temps, parce que c'est né d'une façon contemporaine à votre existence. Mais ce n'est pas naturel, en ce sens que ce n'est pas quelque chose qui provient directement du bien. Ce qui provient directement du bien, alors ça, c'est tout à fait différent. En effet, si un certain manque appartient par nature à une certaine réalité, on ne peut pas dire que ce soit le mal de cette réalité. Il vient le raisonnement de Saint Thomas, un raisonnement de logique qui est très fort. En effet, si un certain manque appartient par nature à une certaine réalité, on ne peut pas dire que ce soit le mal de cette réalité. Ainsi, ce n'est pas un mal pour l'homme que de ne pas avoir d'aile, ni pour la pierre que de ne pas avoir la vue, parce que cela est selon sa nature. C'est évident que pour le chat, de ne pas avoir la gueule du chien, ce n'est pas un mal. Ainsi, ce n'est pas un mal pour l'homme que de ne pas avoir d'aile. Il reste donc que tout mal a une certaine cause, puisque le mal existe, et qu'il n'est pas naturel. Donc il faut qu'il y ait une cause. C'est quelque chose qui vient s'ajouter. Oui, comme ça, c'est le réalisme de Saint Thomas. C'est tout à fait autre chose. Mais oui, c'est fatal que tu aies du mal. Oui, c'est bien évident. Mais pas du tout. Jamais. Le mal n'est jamais fatal. Il arrive toujours de façon contingente. C'est pour ça qu'il est insupportable. On aurait pu l'éviter. On aurait pu toujours l'éviter. Ça peut te consoler jamais quelqu'un en disant, mais oui, mais c'est normal, tu arrives à un certain âge, alors il faut bien, il faut perdre ses dents, il faut perdre ses cheveux. Ah ouais, oui, mais ça, il n'y avait rien. C'est pas que naturel à la personne humaine. Il reste donc que tout mal a une certaine cause, mais par accident, du fait qu'il ne peut avoir de cause par soi. Or, tout ce qui est par accident se ramène à ce qui est par soi. Ça aussi, c'est un vieux principe du de causis, qui provient d'Aristote du reste. Pas le de causis, mais ce principe. Tout ce qui est par accident se ramène à ce qui est par soi. Le per accidens se ramène toujours per soi. Or, si le mal n'a pas de cause propre, comme il est démontré, il reste que seul le bien a une cause propre. La cause par soi du bien ne peut être que le bien, puisque la cause par soi cause ce qui lui est semblable. Il reste donc que le bien et cause par accident de n'importe quel mal. Dans l'ordre des causes par soi, c'est le bien. Or, la cause par accident se ramène à la cause par soi. Donc, nécessairement, c'est le bien qui cause par accident. Vous pourriez le dire directement par une espèce de voie intuitive. La cause efficiente est en acte, donc elle est bonne. On est un agent, mais on est actif que dans la mesure où on est en acte. Or, l'acte, c'est un certain bien. C'est évident que si je suis en puissance, je navigue pas. Et être en puissance, c'est justement ne pas être bon. Ce n'est pas un mal d'être en puissance. Être en puissance n'est pas un mal. Sauf si à un certain âge, vous vous devez normalement être capable de vous conduire. Or, vous êtes incapable de vous conduire à 35 ans. Je dis ça parce que c'est pas votre âge. À 35 ans, vous n'êtes pas capable de vous conduire. Donc, il y a un manque. Vous auriez dû être capable de vous conduire. Et quand vous êtes gosse, quand vous étiez gosse, ne pas être capable de se conduire, c'est pas un mal. Vous ne demandez pas à l'enfant d'être capable de se conduire. C'est pas un mal pour l'enfant. Avec le temps, ça devient un mal. Il reste que le bien est cause par accident de n'importe quel mal. Cependant, il peut arriver que le mal, qui est l'absence d'un bien, soit la cause du mal. Et cependant, il faut en arriver à cela, que la première cause du mal ne soit pas le mal, mais le bien. C'est très vrai que le mal, la privation, engendre un acte mauvais. Vous avez le tibia mal formé. Donc vous marchez de toute façon difforme. Or, le tibia est cause de votre marche, du moins, cause matérielle. Donc il y a une espèce de répétition. Le mal peut être cause du mal par le bien sur lequel il génère. Mais le premier mal, il faut bien que ce soit le bien. Et père Aquinas. Il est donc un double mode par lequel le mal est causé à partir du bien. Par le premier mode, le bien est causé du mal en tant qu'il fait défaut. Par le second mode, en tant qu'il est par accidence. Oui, c'est très joli de voir ces deux sources du mal. C'est sûr qu'un être auquel il manque quelque chose, cette déficience, s'il agit, il peut agir puisque il est bon, supportant cette déficience. S'il agit, son action ne sera pas parfaite. Il manquera quelque chose. Agens, agit, simile, sibi. L'agent agit de toute façon semblable à ce qu'il est. Si cet agent a une fêlure, ben nécessairement dans l'action pour trouver la fêlure. C'est ce que vous direz spontanément. Ah, c'est pas étonnant. Ah, c'est toi qui fais. Ah, c'est évident. On voit la marque de fabrique. C'est la fêlure. La fêlure qui se répète. Alors, quand vous entendez marcher quelqu'un dans le corridor, vous avez repéré qu'il y en a qui marche lourdement. Ça existe. Parce qu'il lui manque la légèreté. Donc il marche lourdement. Ben, vous remarquez tout de suite cette marche lourde indique celui auquel il manque d'être aérien. Il n'a au contraire qu'il marche de façon aérienne. Vous ne le remarquez pas. Par définition, puisqu'il marche de façon aérienne. Donc agens, agit, simile, simi. Ça le faut. Il faut souvent se le dire. L'agent agit de façon semblable à lui-même. Donc, s'il est fêlé, il agira de façon fêlée. Alors à ce moment-là, vous voyez, le mal engendre le mal. Et c'est pas du tout Père Aquinas. C'est le bien fêlé. Puisque c'est le bien fêlé. C'est le bien fêlé qui engendre une action fêlée. Vous avez une intelligence. Puisque là, ça arrive, l'intelligence fêlée. Vous avez une intelligence dialectique. Qui a été formé par la dialectique. Donc, toujours, votre raisonnement sera toujours par mode dialectique. Agent, agit, simile, simile. Ça, c'est facile à comprendre. Ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre, c'est de voir le premier moment du mal, d'assister à la fêlure. Parce qu'une fois qu'il est fêlé, il dit qu'il agit. selon une causalité hyperaffinante. Alors, ce qui se voit aisément, patent, c'est évident pour saint Thomas, dans les réalités physiques. Alors, on va regarder la cause première du mal dans les réalités physiques et la cause première du mal dans les actes volontaires. Vous allez voir, très belle étude. En effet, de ce mal qu'est la corruption de l'eau, la cause est la vertu active. Celle-ci, certes, ne tend pas principalement et proprement per se à la non-existence de l'eau, mais elle tend principalement à introduire la forme du feu dans la matière. Pas les pompiers, quand ils font ça, ils pensent à ça.
Le
je pense. Il veut pas la supprimer. Non, t'es au feu. Faites ses confidences. Il veut pas du tout la supprimer. Mais Barakinan, c'est la supprime. Si les éléphants ne pourraient pas, Barakinan s'y supprimer, les hommes. Puisqu'il n'y aurait plus que des éléphants. Dans notre univers. Barakinan s'y supprimerait les hommes. Il n'aurait pas du tout de mauvaise volonté de les supprimer. Mais ce serait nécessaire. Il n'y aurait plus de place pour les hommes. Alors, ce qui est plus important, c'est l'autre partie. Dans les actes volontaires, il en va en quelque sorte pareillement, et non pas pour tous. Ça, c'est très intéressant, c'est l'origine du péché. C'est l'origine de l'orgueil. Dans un acte volontaire, où le désordre, la privation, pour le désordre, même un anarchique, même quelqu'un qui prétend être anarchique, il ne veut pas le désordre pour le désordre, il veut son bien. Autant de toi, parce que je dois lui mettre. Et je m'en viens de façon tellement égoïste. Nécessairement, tu es relégué. Moi, je veux tout. Hitler, c'était ça. Il voulait tout. Puisque seul, l'Allemagne était bénie de Dieu. Donc, tous les autres disparaissent. Vous tenez des satellites. Vous devez disparaître. Alors, en effet, il est manifeste que ce qui est agréable pour les sens, se réjouir d'un plaisir tel qu'elle rejette l'ordre de la raison et de la loi divine, ce qui est le mal moral. Comment essayer de comprendre comment le mal moral apparaît par une causalité perfidieuse. L'ordre de la raison, l'ordre de la loi divine va disparaître. Si donc il en est ainsi que la volonté reçoit façon nécessaire, une impression des réalités délectables qui l'attirent, à la manière dont un corps physique reçoit d'une façon nécessaire l'impression de l'agent, alors il en serait tout à fait de même pour les actes volontaires que pour les réalités physiques. Or, cela n'est pas ainsi, parce que aussi grand soit l'attraction du bien sensible extérieur, il est cependant au pouvoir de la volonté d'accepter ou de ne pas accepter. Ah, ça c'est net. La volonté d'accepter ou de ne pas accepter, de poser un acte, voilà, de poser. C'est pourquoi la cause du mal qui lui arrive parce qu'elle accepte, n'est pas le délectable lui-même qui le meut, mais plutôt la volonté elle-même. Ça, c'est capital de comprendre ça. Où arrive le premier moment du mal, le premier moment du bien et de l'amour, c'est facile, c'est le bien qui attire. Mais le mal n'attire pas. Alors comment se fait-il qu'il y a du bien qui nous empêche? Le mal n'attire pas, il n'y a que le bien qui attire. Si le mal n'attire pas, mais alors, jamais le péché arrivera. Alors c'est pour ça que Saint-Thomas souligne. Voyez bien. Or, cela n'est pas ainsi. Parce que, aussi grande que soit l'attraction du bien sensible extérieur, il est cependant au pouvoir de la volonté d'accepter ou de ne pas accepter. C'est pourquoi la cause du mal qui lui arrive, parce qu'elle accepte ce bien sensible, n'est pas la délectation. N'est pas le délectation. l'âme humaine qui le veut, qui l'aime, mais plutôt la volonté elle-même, laquelle est cause du mal, selon les deux modes précités, c'est-à-dire, et par accident, et en tant qu'elle est un bien division. Par accident, en tant que la volonté se porte vers quelque chose qui est un bien relatif, c'est comme nous. Possède un lien avec ce qui est un mal pris absolument. Donc la volonté est cause par accident, en tant que la volonté se porte vers quelque chose qui est un bien relatif, mais qui possède un lien avec ce qui est un mal pris absolument. Ce bien relatif possède relation nécessaire avec un mal absolu. Par accident, en tant que la volonté se porte vers quelque chose qui est un bien relatif, mais qui possède un lien avec ce qui est un mal pris absolument, c'est plus du tel. Mais comme bien déficient, donc ça c'est par accident, voyez. Très très curieux. C'est pas commun de bien le saisir, mais c'est très important, je crois. Mais comme bien déficient, en tant qu'il faut considérer auparavant dans la volonté un certain défaut avant ce choix défectueux par lequel elle choisit un bien relatif qui est un mal pris absolument. Ce qui apparaît clairement par ce qui suit. En effet, dans toutes les réalités dont l'une doit être la règle et la mesure de l'autre, le bien pour la réalité réglée et mesurée vient de ce qu'elle se règle et se conforme à la règle et à la mesure. Si le mal vient de ce qu'elle n'est pas réglée ou mesurée. Si donc, alors c'est l'exemple qui m'en prend, hein, si donc un artisan qui doit tracer une ligne droite en suivant une règle ne trace pas droit, ce qui est mal tracé, ce mauvais tracé sera causé par ce défaut qui est que l'artisan n'avait ni règle ni mesure. De la même façon, le plaisir et toute autre chose dans les réalités humaines doit être mesuré et réglé selon la règle de la raison et de la loi divine. C'est pourquoi ne pas faire usage de la règle de la raison et de la loi divine est prévu dans la volonté avant le choix des ordonnées. Or, il ne faut pas chercher de cause au fait ne pas faire usage de la règle précitée, parce que pour cela, la liberté même de la volonté suffit, par laquelle elle peut agir ou pas agir. Et le fait de ne pas tendre en acte vers une telle règle, considérée en elle-même, n'est pas un mal, ni une faute, ni une peine, parce que là,